Bonjour, et bien nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Monory pour parler de l'Europe dans une émission qui s'appelle Bienvenue en Europe, n'est-ce pas? C'est évident. Mais là, c'est particulier puisque, bon, d'une part, c'est la fin de l'année, donc on peut souhaiter bonne chance à l'Europe, mais aussi parce que ça va être la présidence française. Présidence française du Conseil des ministres. Ça veut dire qu'en fait, la France va peut-être avoir plus d'influence ou aura peut-être quelques idées pour avancer dans la construction de cette Europe.
Oui, c'est un moment important. Donc, la présidence tournante du Conseil des ministres, c'est le Conseil des ministres, hein, pour expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent correctement, parce qu'il y a souvent des confusions. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État ou premiers ministres, chefs de gouvernement, qui représentent donc les États, mais qui donnent les impulsions ou qui tracent un objectif où après ils peuvent discuter entre eux d'un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas ce pouvoir décisionnel qu'a le Conseil des ministres. C'est
Mène la politique réellement.
Mène la politique réellement pour que les États se mettent d'accord entre eux sur des sujets qui sont mis sur la table par la Commission européenne.
Et ensuite, il y a quand même le vote du Parlement.
Le Parlement européen vient ensuite pour dire je suis d'accord ou pas d'accord, et alors il y a des négociations qui s'enclenchent. Alors cette présidence tournante, elle se tient tous les 6 mois. La France va succéder à la Slovénie. Et après, ça va être, après la France, il va y avoir la Tchéquie et ensuite la Suède. Et maintenant, depuis un certain nombre d'années, chaque présidence qui arrive pour les 6 mois, donc là c'est de janvier à juin, à fin juin, 1er janvier à 30 juin pour la France. Mais il y a un trio, c'est-à-dire que chaque présidence doit se coordonner avec...
celle qui précède et celle qui suit.
Mais là, c'est dans le nouveau trio, c'est-à-dire que ça va être uniquement avec ceux qui vont suivre. Donc la France arrive à ce moment-là.
Avec la Tchéquie et la Suède.
Donc ils sont obligés de se mettre d'accord sur un programme. Ce programme est préparé, et dans le cadre du programme européen, par la Commission européenne, c'est la présidente de la Commission européenne qui présente en début de son mandat le programme global pour les 5 ans à venir. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de sujets qui viennent sur la table dans le cadre pluriannuel. Et donc il y a la Commission européenne qui se met d'accord avec la présidence qui arrive, et qui définit quels sont, en accord avec cet État, quels sont les sujets à mettre en avant. L'État en question, donc la France, dit ben moi je préfère mettre ceci en priorité, je voudrais rajouter ceci ou cela. Mais donc c'est une négociation. Quand j'étais à Bruxelles, j'ai participé à ce type de négociation pour préparer des présidences.
C'est vrai que c'est important, ce qui intéresse les auditeurs, c'est en fait vers quoi on tend.
Voilà. Et donc maintenant que le sujet étant... Non mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien. Donc il y a une influence, notamment pour les grands pays, parce que, évidemment, chaque présidence d'un grand pays en profite pour essayer de mettre en avant quelque chose qui n'aurait pas... Par exemple, la présidence portugaise, qui était dans le trio d'avant, a mis en avant la nécessité de se mettre d'accord sur le plan social. Donc il y a eu toute une procédure qui a été lancée dans ce cadre-là. Donc au niveau de la présidence française, alors il y a le président Macron, comme c'était son... droit et son devoir de présenter au nom de la France qu'est-ce qu'il y aurait dans le programme. Il y a eu une émission spéciale au niveau de la télévision française où il a présenté son programme. Mais c'est quand même important d'en rappeler quand même les points importants.
Les termes européens, voilà.
Donc il a mis trois dossiers en avant en regroupant sous 3 chapitres. Une Europe souveraine, une Europe qui soit un modèle européen de croissance, et puis une Europe à taille humaine. Alors sous ces rubriques un peu générales, il y a surtout la souveraineté.
C'est la politique extérieure, donc on peut en parler, parce que bon, l'Institut Jacques Delors avait quelques idées là-dessus. En plus, l'Allemagne a changé de gouvernement, et ça fait 15 ans qu'on était avec la même chancelière pro-européenne, mais peut-être de façon... Alors, est-ce que l'équipe nouvelle est pro-européenne? Oui.
Oui.
Mais précisons alors, un peu.
Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça n'est pas arrivé depuis très longtemps et les médias français ne sont pas rentrés là-dedans. Ils se sont contentés de dire
Madame Merkel, les Allemands pleurent, leur maman, puis, mais bon.
Et ça, en revanche, il y a eu des on a vu que quand le nouveau gouvernement s'est mis en place, il y a France 2, France Inter qui ont dit oui, il y a un nouveau, et ils ont retenu la légalisation du cannabis comme un point important, alors que sur le plan européen, jamais un gouvernement nouveau allemand s'est mis dans une situation aussi pro-européenne. Parce que Mme Merkel a beaucoup aidé, notamment avec le plan de relance, qu'elle a fini par accepter, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était une manière de faire sortir l'Europe de la grande crise qu'elle a connue à travers les crises, la pandémie, etc. Mais donc il y a
elle était
assez prudente. Or là, on a un gouvernement allemand qui se présente vraiment comme pro-européen en disant nous, on veut foncer, et même au-delà de ce que la France a préconisé jusqu'à présent. Et c'est ça que les médias en parlent très peu, et c'est un peu dommage. Par exemple. Ils disent, il faudrait aller vers l'évolution de l'Europe, vers un État fédéral européen. Alors là, évidemment, quand on dit ça, il y a plein de gens, et notamment en France, qui vont dire, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut voir que du côté de l'Allemagne, ils ont cette pratique du fédéralisme qui n'est pas du tout une vision telle qu'on l'imagine en France. En France, on est dans un État centralisé, donc on imagine que le fédéralisme, ça va vouloir dire un centralisme au niveau de Bruxelles. Mais pas du tout. C'est l'inverse. C'est au contraire redonner du pouvoir aux États dans le cadre de cette dimension fédérale. Et ils ont également été beaucoup plus loin dans des propositions en disant qu'il faudra sans doute faire une modification des traités. Et dans ce cadre-là, la conférence sur l'avenir de l'Europe dont on a parlé à plusieurs reprises...
C'est très important.
Ici, où chaque citoyen est invité à dire ce qu'il propose, par exemple, et là, on dit qu'il suffit d'aller sur le site Future Europe, et on peut accéder directement à cette possibilité de donner ses opinions. Mais le gouvernement allemand a dit, dans ce cadre de cette convention, c'est là où il faut bien mettre en avant ce qu'on pourrait faire, parce que c'est on trace l'union de l'Europe.
On trace l'avenir.
L'avenir. Et alors, dans ce cadre-là, ils disent le Parlement européen, il faut le renforcer encore et qu'il obtienne le droit d'initiative qu'il a et jusqu'à présent réservé à la Commission européenne. Et il faudrait également que la Commission soit plus ambitieuse dans sa lutte contre les atteintes à l'état de droit. Ils ont dit également qu'il faut une réforme fondamentale du système européen d'asile, une plus forte coopération des armées des États membres. Il faut qu'il y ait un droit de vote européen unique avec des listes transnationales et un système de Spitzenkandidat obligatoire, c'est-à-dire que c'est le chef du parti qui arrive en tête qui devient automatiquement le président de la Commission européenne et qui dirige en quelque sorte un gouvernement qui a été nommé par le Parlement européen avec évidemment
l'accord. Et non plus l'accord. Les négociations qu'il y a.
Il y a toute une série d'ambitions très nouvelle au niveau européen, et y compris sur le plan de la gestion financière, où on a dit « Ah, mais les libéraux allemands vont être très rigides, parce que jusqu'à présent, ils s'étaient dit « Non, non, on ne touche pas au système où il y a 3% de déficit, il faut absolument, et 60% d'engagement, d'endettement, là aussi, il y a des ouvertures possibles, ils l'ont dit. Donc c'est important de voir cela, d'autant plus que sur le plan intérieur, ils ont fait aussi des propositions très très importantes pour essayer de faire en sorte que l'Allemagne se développe, et notamment au plan social. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On en parle très peu dans les médias, et donc on est...
Donc parlons-en.
Nous en parlons.
Alors, on en a parlé en disant effectivement que le nouveau gouvernement allemand est plutôt favorable à l'Europe et à une construction européenne qui soit plus resserrée. Mais de ce fait, peut-être qu'en France, on est... Enfin bon, quand les autres avancent, nous on recule. Alors, c'est quoi l'euroscepticisme à la française?
Oui, alors il y a une étude très intéressante de l'Institut Jacques Delors, dont on fête d'ailleurs les 25 ans, 25e anniversaire.
Alors, on peut rappeler que Jacques Delors a été justement un commissaire qui était
disons que c'était
un prédécesseur de Madame Ursula von der Leyen.
Oui, donc il était le président de la Commission européenne. Voilà. Il est resté deux mandats. Il est arrivé en 85 et il est parti en 95.
Ça fait 25 ans.
Et bientôt.
Mais il suit les
un
affaires.
Peu plus. Il suit. Alors, il a fait une pour ce 25e anniversaire. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai
Vous
été chargé.
Avec lui.
Non seulement j'ai travaillé avec lui, mais en plus, il m'avait demandé de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire après qu'il quitte sa fonction de président de la Commission européenne. Et donc, j'ai participé avec ses collègues à la création de cet institut qui est devenu l'Institut Jacques Delors, mais qui, à l'origine, s'est appelé Notre Europe.
Et c'était un peu un conseil. C'était un peu études et conseils, j'imagine.
Oui, au départ, études et conseils.
Puis un point de vue, finalement, aussi.
Voilà, et donc c'est devenu un think tank important parce que non seulement il y a eu la création au niveau français d'une instance, mais également au niveau de Berlin et également au niveau de Bruxelles. Maintenant, il y a trois sites qui travaillent dans le cadre de l'Institut Jacques Delors.
Et qui travaillent une réflexion approfondie sur l'Europe.
Tout à fait. Et ils produisent, et j'invite tous nos auditeurs à aller sur le site Institut Jacques Delors, ils pourront voir tout ce que fait cet institut. Et il y a des choses très intéressantes avec de nombreux rapports d'études approfondies. Et dans le cadre de ces 25e anniversaire, Jacques Delors a fait une déclaration que, compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu être présent. Le président de la République a été présent, ça a été fait, il y a eu un événement spécial pour ses 25 ans, et la déclaration de Jacques Delors a été lue devant l'auditoire par Pascal Lamy, qui était à l'époque son chef de cabinet,
qui est aussi un grand européen.
Et dans cette déclaration de Jacques Delors, c'est vraiment très intéressant parce qu'il a dit il faut penser l'Europe et il faut s'inspirer des pères fondateurs. Et on doit se retourner vers ces intuitions d'origine que ces pères fondateurs ont eues pour justement se projeter vers l'avenir et dire eh ben, il faut qu'on fasse comme eux, en quelque sorte, pour essayer d'élargir notre horizon, voir qu'est-ce qu'il faudrait faire après, non pas
par
copier.
Contre, élargir l'horizon, ça ne veut pas dire l'élargissement géographique, parce que déjà, une Europe à 27,
non,
c'est assez difficile.
Non, il n'est pas rentré dans ce genre de déclaration.
Voilà, je crois que c'est une Europe qui approfondit ses institutions.
Tout à fait. Et en disant, bah, par exemple, le plan de relance budgétaire et l'endettement contracté en commun, c'est une très bonne chose, et donc ça peut ouvrir pas mal de perspectives. Mais il dit, bon, au départ, l'Europe était imaginée comme un projet de paix, mais maintenant, elle doit aujourd'hui se penser aussi comme puissance, une puissance en devenir responsable et généreuse dans le monde. Et alors, c'est intéressant parce qu'il a dit, il est revenu à son sujet, ça s'appelle Notre Europe, parce que l'Europe, on la voit de manière éloignée, mais c'est la nôtre. Et il faut penser l'Europe comme vraiment nôtre, et non pas considérer, par exemple, le droit européen comme un droit qui nous serait sorti du chapeau et imposé, c'est notre droit. Et il insiste beaucoup sur cette particularité de dire que l'Europe, c'est bien la nôtre. Et donc, ça signifie à la fois que l'Europe, que l'Union nous appartient à tout un chacun. Mais elle est plurielle par essence. Et là, on rejoint évidemment la devise unie dans la diversité. Donc, l'Europe nous appartient autant que nous appartenons à l'Europe. Et il n'a jamais été, il a terminé là-dessus en disant que le projet européen n'a jamais été l'ennemi des nations. Au contraire, c'est un gage de rayonnement. Donc, ceci est important, je crois, de le rappeler.
D'accord, mais je pense que, justement, en lien avec cet Institut Jacques Delors et avec les propositions, j'ai entendu aussi tout à l'heure que dans les propositions françaises, il y avait une Europe qui soit humaine. Alors, c'est quoi l'Europe humaine ? Parce que, justement, ça recoupe un peu ces projets sociaux qui ont été ceux de la présidence portugaise, ces projets sociaux que demandent les gens parce qu'ils ont l'impression quand même que l'Europe est très loin. Donc, cette projection d'une Europe humaine, et alors à cet égard, n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez aller sur le site pour dire l'Europe que vous voulez, ça me paraît très important. et pour justement que cette Europe humaine soit une vraie Europe humaine les Européens. Et ensuite, on parlera quand même de humaine vis-à-vis de l'étranger. Donc, problème...
Au niveau de l'Europe humaine, dans le cadre du programme de la présidence française, puisqu'on s'y réfère, c'est l'un des trois grands axes de ce programme, c'est l'avenir de l'Europe qui doit être tracé. Et là, dans ce cadre-là, justement, il y a cette enquête, ce qu'on appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui doit être un des éléments centraux pour justement faire participer les citoyens, étant entendu que c'est justement sous la présidence française qu'il va y avoir les conclusions
de
cette enquête, en quelque sorte, inédite auprès des citoyens européens. Et donc, on va voir à ce moment-là ce que l'on peut en tirer. Mais il y a également aussi la défense de l'état de droit là-dedans, parce que cela fait partie de cette dimension humaine. Et puis, il y a un accent particulier sur l'histoire de l'Europe également, qu'il faudrait... Et revoir comment est-ce qu'on peut l'enseigner. L'histoire européenne n'est pas seulement l'addition de 27 histoires nationales. Donc il y a une réflexion qui doit être lancée avec un groupe d'experts indépendants qui va plancher là-dessus dans le cadre de cette présidence. Et puis il y a un volet quand même très important sur la jeunesse et l'éducation.
Oui, c'est ça.
Et 2022 sera en plus l'année européenne de la jeunesse. Et ce sera le moment de 35 ans, du 35e anniversaire du programme Erasmus.
Voilà, c'est ça. Je pense donc, que c'est ça qui est important, c'est l'avenir.
Combiné avec un service civique européen, un projet de service européen qui s'adresserait à tous les jeunes jusqu'à 25 ans, qui serait de 6 mois et qui serait non seulement des échanges universitaires et d'apprentissage, mais également des stages, des actions associatives. Donc, il y a vraiment des choses très importantes qui vont être discutées dans ce cadre-là. Alors,
dans cette Europe humaine, effectivement, il faut peut-être aussi donc, se soucier de cette Europe sociale, ce qui se traduit par une économie au service des hommes. Et ça, c'était le troisième point de la présidence française que vous évoquiez tout à l'heure.
Il y a, ceci étant, par rapport à cette dimension européenne, et puisqu'on parle, on a dit qu'il y a aussi, un certain nombre de, au-delà des réflexions, il y a les sentiments des Européens et notamment des Français vis-à-vis de l'Europe. Juste pour dire, parce qu'on faisait une comparaison...
Oui, on parlait de l'euroscepticisme.
L'euroscepticisme, c'est pas pour... Mais ça fait partie des choses que l'on doit comprendre.
De la réalité, oui.
Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus européen partout ? Mais il se trouve que la France, qui est à la fois pro-européenne très majoritairement, l'est parfois beaucoup moins, sinon contre l'Europe dans beaucoup de problèmes. Donc il y a, d'après les statistiques... Une étude, là aussi, de l'Institut Jacques Delors, il y a 56% des Français qui sont attachés à l'Europe. Donc, c'est pas mal. Mais il y en a 51% qui estiment que l'Union européenne est très éloignée. Ben oui, mais c'est ce qui est expliqué dans l'étude. Les médias n'en parlent pas. Et ils ne disent pas comment ça fonctionne. Donc, les Français ne se sentent pas concernés. Ou quand ils se sentent concernés, ils se disent « Ah ben, c'est parce qu'on veut nous imposer quelque chose depuis Bruxelles ». Et il y en a même 56% qui pensent que l'Europe n'est pas efficace. Alors, il y a quand même un problème. Et en ce qui concerne, par exemple, si on fait une comparaison, quand il y a 48% des Français qui ont une opinion positive pour tel et tel sujet, eh bien, il y a 68% des Allemands qui, eux, sont pour. Mais donc, il y a une différence de presque 20%. Les Allemands sont beaucoup plus européens, finalement, pro-européens que les Français. Alors, ceci... ça dépend des sujets abordés. Ça dépend aussi
de... Oui, parce que finalement, en France, on veut bien... Mais chacun a son image de l'Europe.
Ça dépend aussi de la dimension sociale.
Oui, je crois qu'on est très...
Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Non. Mais il y a quand même, donc, d'une manière générale, même ceux qui étaient jusqu'au boutiste, ne parlons pas nécessairement des extrémistes, ce courant renouveau nationaliste du repliement sur soi, où là, on est foncièrement contre l'Europe. Mais maintenant, même ceux-là n'osent plus dire qu'ils sont vraiment contre l'Europe, alors qu'on crachait sur l'euro, etc. Maintenant, comme par hasard, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même des sujets qui ne sont pas inutiles d'être mis ensemble au plan européen.
On parlait aussi de l'humanisme. Il y a aussi ce qui se passe aux frontières, parce que tout à l'heure, en parlant de la politique extérieure, il y a les relations anglaises avec lesquelles on nous parle beaucoup des quelques pêcheurs. Mais enfin, ça, c'est... assez anecdotique puisqu'il y en a peu, même s'il y a en fait une centaine de personnes qui souffrent et dont il faut se rappeler. Mais il y a aussi cette question des frontières, de l'asile. On a vu se masser les populations ramenées par les Russes et par la Biélorussie qui fait le jeu de Monsieur Poutine. On a vu là un problème se poser, la question de l'asile. On a vu le pape aller à Lesbos et ramener une cinquantaine de migrants. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Alors effectivement, du côté de l'Église, on est et on voit le pape et aussi des religieux comme à Calais faire à la fois la grève de la faim puis aller dormir dans les camps avec les migrants qui veulent passer en Angleterre, soit dit en passant. Cette question de l'asile, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça rejoint la politique extérieure. Une politique extérieure qui aide les gens chez eux ferait que l'asile, on n'en a plus besoin. Une politique extérieure qui tiendrait compte des changements climatiques, et là, Mme von der Leyen pose la question de l'environnement. Donc, je crois que l'Europe a peut-être un rôle d'exemplarité à avoir, non ?
Tout à fait. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait évident à mettre en place. Et là, on se rend compte que tout se tient. Tout est relié.
Ben oui.
Et c'est pour ça. Alors, on entend beaucoup, ah oui, mais on est envahi par des étrangers, etc. Bon, on connaît la musique, et notamment avec la campagne qui commence de la future présidence française, non pas de l'Union, mais de la République française, on entend beaucoup de sujets
alors
comme cela.
Alors que les sujets qui sont importants, c'est l'économie, c'est les entreprises en France.
Et donc, on met ça en avant, alors qu'il y a eu... on est dans une période où il y a beaucoup moins de migrants qu'il y a eu ces grandes vagues autrefois, notamment en 2015 et 2016. Donc là, mais bon, c'est mis en avant. Mais encore une fois, pour essayer de mettre, de dire c'est la faute à Bruxelles et on est envahi, donc il faut se replier, il faut défendre nos frontières.
Cette politique-là, elle dépend de chaque État.
Et ça, c'est également, vous l'avez souligné, il y a la Russie qui est derrière et qui, quand elle voit que l'Union européenne se renforce et devient importante, ils essaient de trouver des choses pour essayer de mettre la zizanie à l'intérieur. Alors bon, c'est de bonne guerre, vous me direz. Mais là, du coup, la Commission européenne, et notamment également parce que c'est dans le programme de la présidence française, de renforcer Schengen. Non pas de démolir Schengen, puisque actuellement, compte tenu de tout ce qui se passe avec la pandémie également qui est là, il y a de nouveau des contrôles aux frontières, on ne circule plus de la même manière, alors que l'une des grandes avancées, et notamment de Jacques Delors, c'était de faire
la
libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, des biens, etc. Donc c'est quelque chose qui est un des fondements de l'Union européenne. Donc, il faut se reporter sur les frontières extérieures. Et c'est là où, dans le cas de la présidence française, il y a ce sujet. La Commission européenne appuie. Et donc, ça fait partie de ce qui sera discuté dans les 6 prochains mois. Comment renforcer Schengen pour que Schengen soit un projet de réforme et qui devienne important pour mieux gérer, justement, ces courants migratoires. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se...
Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, on laissait quand même au pays...
Comment est-ce qu'on peut renforcer, tout en étant efficace sur le plan de l'immigration, notamment irrégulière. Et d'ailleurs, il y a une étude, là encore, aujourd'hui, je parle beaucoup de Jacques Delors, mais il y a une étude dans le cadre de l'Institut Jacques Delors, qui a été pilotée par Jérôme Vignon, qui est déjà intervenu ici sur la région de Chartres à une ou l'autre occasion dans le cadre chrétien. Il était membre du cabinet Jacques Delors, autrefois, dont je le connais assez bien pour avoir travaillé avec lui directement. Et il a présenté un projet tout à fait intéressant, dans un nouveau pacte pour la migration. Et donc ça s'appelle Migration, Asile, Mobilité et Intégration en Europe, indissociable valeur. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer pour justement comment gérer ces problèmes à la fois sociaux et migratoires.
Et humains.
Et humains, et notamment humains. Et démontrer que, bon, d'abord, il y a de graves insuffisances qui sur le plan de la politique européenne, des migrations et de l'asile, avec beaucoup de choses scandaleuses qui se sont passées. Il y a eu des exemples, on sait bien.
En même temps, rappelons que voilà, c'est parce que ça dépend de chaque État.
Voilà,
pour
c'est et chaque là... État. qui est responsable. Et sur le plan européen, il faut arriver à se mettre d'accord. Donc lui, il a proposé une régulation de l'immigration, ce qui est légitime. Il faut combattre l'immigration irrégulière, mais il faut rendre lisibles les droits européens qui sont ouverts à la mobilité internationale du travail. Il faut se référer à la liberté fondamentale de circulation au sein de l'Union européenne. Et qu'il ne faut pas également, il faut faire en sorte qu'il y ait une convergence effective des politiques nationales d'asile. Donc sur le plan du droit d'asile, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ce qui est très important, c'est de voir qu'il faut sortir de l'impasse actuelle, il faut essayer de mettre en place un nouveau système. Et donc on va en parler dans le cadre de la nouvelle présidence. On aura peut-être l'occasion ici d'en reparler à la
retrouver
radio.
Cette question. Oui.
Mais donc ce qui actuellement, c'est à chaque fois des compromis. Chaque État se replie sur soi-même et dit « Ah non, moi, je ne veux pas ça ». On a le cas de la Hongrie, on a le cas de la Pologne, etc. Et on a d'autres cas sur le plan de l'Italie, il n'y a pas si longtemps.
Mais c'est vrai que l'Italie, l'Espagne, ce sont
donc
des pays qui sont de frontières.
Il faut des problèmes de frontières. On a, nous, le problème avec les migrants qui passent
vers l'Angleterre, parce qu'on a imaginé que la frontière avec l'Angleterre était ici.
Ou ceux qui traversent la Méditerranée, qui arrivent chez nous aussi. Il y a le problème avec l'Espagne. Bon. Mais il y a, donc, ils mettent en avant, il faut remettre en avant non seulement comment mieux gérer cela, être une dimension humaine pour recevoir les migrants, mettre en avant un droit d'asile qui serait analysé de manière coordonnée au niveau européen, avec une instance qui doit s'en occuper et qui rend efficace la solidarité entre eux. Et avec, évidemment, les droits humains
qui sont respectés
les migrants qui se présentent, même en cas d'irrégularité, parce que là, à ce moment-là, on fait une analyse de la situation. Est-ce que c'est le droit d'asile ou pas le droit d'asile, etc. Donc il y a à la fois remédier à tout ce qui ne va pas à l'heure actuelle et se tourner vers une solidarité européenne et une dimension humaine à respecter.
Eh bien, chers auditeurs, nous acheminons vers la fin du temps imparti pour notre émission. Donc, vous avez entendu, d'une part, l'intérêt qu'il y a eu, après ces nouvelles élections, à une page nouvelle qui s'ouvre. D'une part parce qu'en Allemagne, il y a un nouveau gouvernement et en France, c'est la présidence française. Vous avez entendu aussi les projets concernant à la fois l'économie, concernant l'humanité et concernant la construction européenne. Et puis, vous avez entendu que les problèmes, eh bien, on ne les laisse pas de côté, on ne les met pas sous le tapis, mais il est question que cette Europe les affronte réellement. Donc, vous avez évoqué frontières de Schengen, vous avez évoqué les questions de santé qui sont qu'elles soient coordonnées, les questions sociales qu'elles soient coordonnées, eh bien on souhaite à l'Europe de trouver les artisans qui vont la construire. Et alors, vous vous rappelez, chers auditeurs, que ça ne peut pas se faire sans vous, qu'il y a actuellement la possibilité de s'exprimer sur l'Europe que nous voulons, donc futur de l'Europe, il vous appartient. Donc on peut souhaiter à l'Europe d'être solide, de se solidifier, d'avancer.
Et de rappeler que tout ce que l'on entreprend dans ce cadre-là, c'est au départ pour l'intérêt du bien commun. C'est l'intérêt de tous, de chacun. Chacun est concerné, donc peut intervenir, mais l'Europe ne doit pas se faire contre l'intérêt de ses citoyens. Et au contraire, c'est pour appuyer et leur permettre de vivre correctement et évidemment dans un cadre rassurant et sécurisé.
Donc disons, bonne année l'Europe et sauvons l'Europe, continuons en Europe, mais avec vous, avec tout le monde et aux auditeurs, je dis, bonne fête de fin d'année, bonne semaine à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel.